Magazine, nous avons la joie d'avoir à notre micro une invitée, une habituée, j'ai envie de dire, de la maison. Ce n'est pas sa première, c'est Madame Aude Comte. Bonjour.
Bonjour.
Heureuse de vous recevoir.
Merci à vous.
Alors, vous nous avez choisi une belle thématique, mais avant d'aller un peu plus loin, on aimerait savoir, justement, vous venez de la DEAL, vous vous occupez de la rubrique ou du pôle inondation.
C'est ça.
Oui. En quoi consiste vraiment votre profession?
Alors, donc je travaille donc à la DEAL, donc Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. La DEAL donc est un service déconcentré qui est placé sous l'autorité du préfet de Guadeloupe et qui a en charge l'élaboration et la mise en œuvre des politiques qui sont liées au développement durable, à l'aménagement durable, au logement. Et puis, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à la prévention des risques naturels et en particulier liées aux inondations.
Voilà la thématique choisie pour aujourd'hui. Mon logement est en zone inondable, que faire? Alors, certains peuvent se dire, mais ça ne me concerne pas parce que j'habite en grande terre. D'autres peuvent dire le contraire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors, c'est vrai que en Guadeloupe, bon, de par son contexte climatique et géologique, nous sommes exposés à beaucoup de risques naturels et parmi ceux-ci, on pense en premier au séisme, au tremblement de terre. C'est vrai que c'est le risque le plus important. Oui. Les pertes humaines et les dommages matériels peuvent être considérables. Toutefois, le risque d'inondation existe également. Il est plus diffus, mais chaque année apporte son lot de dommages économiques et matériels liés aux inondations. Par exemple, les inondations qui ont paralysé l'agglomération pointoise pendant plusieurs heures en mai 2012 suite à une submersion des principaux axes routiers. Et puis, malheureusement, il y a aussi des pertes humaines qui sont à déplorer liées aux inondations. N'oublions pas qu'en janvier 2011, puis en octobre 2012, en janvier 2011 dans les Grands Fonds et en octobre 2012 sur les hauteurs de Saint-Claude, hein, 5 personnes au total ont perdu la vie dans des circonstances similaires, leur véhicule étant emporté alors qu'elles tentaient de franchir un guet submergé par une rivière en crue.
Tout à fait.
Voilà, donc des études récentes apportent le chiffre suivant. On estime quand même qu'il y a 60 000 personnes qui habitent en zone potentiellement inondable en Guadeloupe.
Alors, prochaine question, quelles sont les caractéristiques des inondations en Guadeloupe?
Alors, les inondations en Guadeloupe, elles sont causées par des fortes pluies qui peuvent survenir à tout moment de l'année, mm-hmm. et pas seulement en période cyclonique.
D'accord.
C'est important. Ces pluies aussi peuvent être très localisées. Les inondations qui en résultent sont soudaines et violentes, ce qui leur confère en fait deux caractéristiques dangereuses pour les vies humaines. La première caractéristique, c'est que l'eau monte vite et corrélativement, donc elle descend vite. Donc, quand l'eau monte, on parle de la crue, et quand elle descend, on parle de la décrue. Quand je parle d'une crue et d'une décrue rapide, c'est-à-dire qu'elles s'enchaînent en l'espace de quelques heures, de 6 heures maximum.
Hein. D'accord.
C'est à mettre en parallèle, par exemple, avec ce qu'on voit actuellement aux actualités, les inondations qui affectent en ce moment qui ont affecté ces jours-ci le centre et le nord de la France hexagonale, mmh. où là, on a des temps de crue et de décrue qui se comptent en plusieurs jours. La deuxième caractéristique qui est potentiellement dangereuse pour les vies humaines, c'est que le courant est fort. Donc cela signifie qu'il est puissant, qu'il a la capacité de charrier, de transporter de la terre, quantité d'encombrants, des végétaux, et voire même peut emporter des véhicules ou des gens. Donc ces deux caractéristiques, elles sont toutefois à nuancer localement. Il y a certains secteurs que l'on appelle les points bas, où l'eau a tendance à s'accumuler. Si les dispositifs d'évacuation de l'eau sont mal dimensionnés ou obstrués, par exemple par des encombrants, hein, une carcasse de véhicule, un vieux frigo, ou aussi par des végétaux, les bambous notamment sont problématiques, eh bien dans ce cas, l'eau ne s'écoule pas et elle peut stagner longtemps. Et c'est typiquement la configuration qu'on a eue, par exemple, lors des inondations de mai 2012, dans la région pointoise, notamment aux abords de Jarry. Mmh.
Alors, comment se préparer ?
Alors, nous sommes tous responsables de notre propre protection. Donc, je vais vous proposer quelques recommandations.
Oui.
C'est des généralités, bien sûr, chacun doit les adapter en fonction de sa propre situation et en faisant appel à son bon sens. Ces recommandations, elles s'articulent en trois temps. Avant l'inondation, pendant l'inondation et après l'inondation.
Très bien. Donc, on va commencer par le avant l'inondation. Première question, comment savoir si ma maison est en zone inondable ?
Alors, la première chose, il faut faire un petit peu d'observation dans les alentours. Est-ce que vous habitez en bordure d'une rivière ? Ou alors, est-ce que vous habitez dans une zone plane sur laquelle la rivière peut déborder quand elle est en crue ? Ou en bordure littorale ? Alors, si vous êtes dans cette situation et tant qu'on est dans les repérages des alentours, identifiez aussi un point haut, par exemple un morne, le morne le plus proche vers lequel vous pourriez vous réfugier en cas d'inondation. Ensuite, renseignez-vous aussi sur la mémoire des inondations. Vos voisins, et en particulier les aînés, peuvent vous renseigner sur les inondations qui ont affecté le quartier dans le passé.
Tout à fait.
Ensuite, vous pouvez aussi consulter auprès de votre mairie le plan de prévention des risques naturels majeurs, le PPR. C'est un document qui permet de prendre en compte les risques naturels dans l'aménagement du territoire. Vous pouvez aussi consulter en mairie le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs. Ce document recense les risques auxquels la commune est exposée et expose l'organisation mise en place pour y faire face.
Chaque habitant peut s'y rendre sans aucune difficulté.
Tout à fait. Peut consulter parfois même sur le site internet des mairies, sinon en se rendant sur place.
Très bien.
Et puis, pour finir, si vous avez acheté récemment, il y a moins de 10 ans, vous pouvez vous reporter à l'acte de vente et à ses documents annexes. Vous y trouverez notamment le formulaire d'état des risques. Et puis, sachez que tout propriétaire qui met en location un logement doit informer le locataire par écrit de l'existence des risques ou de tout sinistre survenu depuis qu'il est propriétaire.
D'accord, ça c'est bon à souligner ça. Dites-nous, concernant maintenant l'assureur, est-ce qu'il peut refuser d'assurer sa maison située en zone inondable ? Est-ce possible ?
Oui.
Parce qu'on peut dire que c'est un coût peut-être ?
Oui, donc en fait, c'est vrai que souscrire une assurance dommage pour son logement, par exemple une multirisque habitation, permet d'être automatiquement couvert contre les catastrophes naturelles, comme les inondations, si elles ont été constatées catastrophes naturelles par un arrêté interministériel. Toutefois, un assureur qui connaît le risque représenté par un secteur peut refuser d'assurer des maisons qui sont en zone à risque. Il en a parfaitement le droit. Toutefois, dans ce cas, le propriétaire ou le locataire du bien peut alors saisir le bureau central de tarification des assurances. Ce bureau désignera un assureur qui sera tenu de garantir. Pourquoi ? Cette règle vaut parce que la garantie des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle est obligatoire.
Alors, y a-t-il une organisation matérielle particulière à prévoir à la maison ?
Oui, quelques travaux simples, bon, qui sont à déterminer au cas par cas, permettent de diminuer la vulnérabilité de votre maison. Donc, par exemple, des aménagements pour limiter les entrées d'eau. On peut réfléchir à la position des ouvertures, notamment de la porte, par rapport aux arrivées d'eau. Autre exemple, il y a quelques travaux simples qui peuvent permettre de sécuriser l'installation électrique. Ensuite, vous devez réfléchir à l'endroit le plus adapté pour stocker les objets sensibles à l'eau. Je pense en particulier à tous les papiers importants, mais également les équipements électriques. Réfléchissez également où stocker les produits polluants afin qu'ils ne génèrent pas une pollution au cas où ils soient entraînés par l'eau. Donc, où stocker les huiles de vidange, peintures, pesticides, dans des endroits hors d'eau, bien sûr.
Alors, Madame Comte, est-ce qu'on peut, d'une façon pratique, donner carrément des conseils et les mettre où exactement, ou d'une façon précise ?
Alors, comme je vous le disais, c'est à déterminer au cas par cas, dans la pièce en hauteur, sur les étagères en hauteur, si vous avez un étage à stocker à l'étage, bien sûr, pour les papiers importants. Bon, dans le cas où la maison n'a pas d'étage, il faut penser à réfléchir à aménager ce qu'on appelle une zone de survie, donc hors d'eau, et dans laquelle vous pourrez vous réfugier en attendant la décrue. Ça peut être les combles, par exemple. Mais attention, il faut que cette zone dispose d'une ouverture sur l'extérieur pour que vous puissiez sortir et vous réfugier sur le toit si, si l'eau monte trop haut. Attention à ne pas se retrouver piégé.
D'accord.
Donc cette ouverture sur l'extérieur est importante.
Alors, on en parle beaucoup ces temps-ci, le kit d'urgence préparé en cas de séisme. Alors, on imagine qu'il peut se révéler utile en cas d'inondation aussi, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Le kit d'urgence, il doit vous servir en cas de séisme, en cas de cyclone, en cas d'inondation. Donc, vous devez préparer son contenu en conséquence. Concrètement, il doit contenir tout ce qu'il vous faut pour garantir à vous et à vos proches une autonomie de 72 heures, quel que soit le problème rencontré. Donc, par exemple, on va citer quelques cas particuliers. Pensez à, notamment, si vous avez un bébé à la maison, mettez des petits pots dans le kit de survie, des couches. Si vous suivez un traitement médical, pensez qui peut avoir à ajouter vos médicaments, par exemple. Ayez aussi un petit peu d'argent liquide, copie sous plastique éventuellement de vos principaux papiers importants, notamment les papiers d'identité. Vous pouvez aussi, pour les papiers importants, les principaux, les scanner et les stocker sur une clé USB qui serait positionnée dans votre kit de survie.
Mmh, tout à fait.
Et puis bon, comme pour les séismes aussi, c'est important de se préparer en famille. Donc, parler aux enfants, expliquez-leur ce qu'est une inondation, expliquez-leur ce qui peut éventuellement se passer et puis comment réagir.
Voilà. Alors là, c'était avant l'inondation. Alors repérage, prise d'information dans le voisinage auprès des autorités, aménagement dans la maison, préparation en famille. Alors autant de réflexes à avoir avant l'inondation. Alors, quand l'eau monte, que dois-je faire? Que doit-on faire plutôt pendant l'inondation?
Alors, en cas de forte pluie, première chose, ayez le réflexe de surveiller la montée des eaux dans la rivière.
Et si ça peut se produire de nuit, comment faire pour surveiller la montée des eaux?
Alors là, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Ouais. Il va falloir écouter la radio en cas de forte pluie. Hein. Mm-hmm. Écoutez la radio. Donc, il y a des bulletins de vigilance qui sont émis par Météo France. Et associez à ces bulletins de vigilance des conseils, même des consignes émises par la préfecture. Ça vous permettra aussi de savoir quels sont les secteurs et les routes touchées. Comme je le disais précédemment, les précipitations et les inondations peuvent être des phénomènes très localisés. Surtout, ayez toujours à l'esprit, en priorité, la protection des personnes. Pensez à la protection des biens seulement si c'est possible, sans mettre en danger les vies humaines.
Est-ce qu'on peut préciser à nos auditeurs, quand on parle de protection des personnes, on va être concrète, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il faut se mettre soi et ses proches en sécurité. Pas d'imprudence pour aller récupérer un sac à main ou un véhicule.
Mmh, tout à fait, tout à fait. Effectivement, souvent, c'est un période de la vie par rapport à ce réflexe qui peut être mauvais. C'est bien de l'avoir souligné. Alors, comment dois-je faire pour évacuer ma maison ?
Alors, première chose, il peut y avoir une évacuation préventive qui est décidée par les autorités. Donc, il faut à tout prix respecter cette consigne. L'ignorer va mettre en péril votre vie, votre famille et aussi celle des sauveteurs qui vont vous récupérer en cas de danger. Vous devez aussi envisager l'hypothèse d'avoir évacué, de prendre vous-même la décision d'avoir évacué. D'où l'importance d'avoir au préalable identifié un point haut dans les alentours, hein, comme un morne, vers lequel vous pourriez aller vous réfugier. Et surtout, si l'eau est montée très vite et ne vous a pas laissé le temps de sortir de la maison, donc typiquement, par exemple, s'il fait nuit et que vous avez été surpris pendant votre sommeil, vous devez vous réfugier à l'étage ou dans la zone de survie que vous auriez aménagée en pensant emmener votre kit d'urgence. Si nécessaire, vous passerez sur le toit, vous passerez par la fenêtre pour monter sur le toit.
Alors, on insiste, mais comment évaluer la gravité de la situation ?
Alors, c'est vrai que les situations sont nombreuses. C'est difficile de tirer des généralités, mais il y a deux indications très précieuses qui vont vous permettre de juger de la gravité de la situation. La première chose, c'est la vitesse du courant. La deuxième chose, c'est la vitesse de montée des eaux. Donc, plus ces deux vitesses sont élevées, plus le danger est important. Surtout, ne sous-estimez jamais la puissance de l'eau. Il faut que vous gardiez à l'esprit qu'à partir d'une hauteur de 70 cm, c'est-à-dire à peu près au genou pour un adulte moyen, même avec un courant faible, un adulte va avoir du mal à se déplacer dans l'eau. D'autre part, faites attention aux objets flottants qui sont entraînés par le courant et gardez également à l'esprit que quand vous marchez dans l'eau, vous ne pouvez pas voir les éventuels trous ou les creux dans le sol. Et vous pouvez, par exemple, tomber et perdre pied dans une piscine ou dans une bouche d'égout.
Oui, alors, ça peut être catastrophique en effet. Alors, mais quelle attitude avoir en voiture ?
En voiture, pour les mêmes raisons de puissance de l'eau et d'impossibilité de voir ce qu'il y a au niveau du sol, vous ne devez jamais vous engager en véhicule dans une zone inondée.
Même si on connaît le terrain ?
Tout à fait, et notamment pour ces raisons de, en cas d'inondation, les réseaux d'eau pluviaux sont saturés, donc les bouches d'égout s'ouvrent en fait, et donc créent des zones potentiellement où on peut coincer un pneu et rester bloqué.
D'accord. Donc prudence.
Prudence en voiture et surtout, ne franchissez jamais un gué submergé ou une rivière en crue. Même un gros véhicule tout-terrain, même un
4x4
peut être emporté par des flots. Et alors trop souvent, les gens sous-estiment la force du courant, la puissance de l'eau. Et malheureusement, les décès qu'on a eu à déplorer ces dernières années liés aux inondations en Guadeloupe sont dus à cette mauvaise appréciation de la dangerosité de l'eau.
Donc c'est bien de l'avoir souligné. Même si on a un gros 4x4, ça sert à rien. Même si on se dit, mais je connais le terrain, ça fait des années que j'habite ici et que je le fréquente. Il faut être vraiment vigilant, c'est ça.
Tout à fait.
D'accord. Donc là, nous étions dans le pendant. Alors, respecter les consignes émises par les autorités, ne pas se mettre en danger, par exemple, en sous-estimant la force de l'eau, sont deux principes essentiels à mettre en œuvre pendant l'inondation. Alors, que doit-on faire après une inondation ?
Après l'inondation, il faut rester prudent et notamment éviter tout déplacement sans être sûr de la sécurité des lieux. À la maison, ne rétablissez l'électricité que si vous êtes sûr de l'état de votre installation électrique. Ne remettez pas immédiatement en marche tous les appareils électriques. Laissez-les sécher quelques heures, quelques jours pour éviter les dommages. Ne consommez pas l'eau du robinet si vous n'êtes pas sûr de sa qualité. Donc là, la préfecture ou la mairie pourront vous donner des renseignements. Et puis, pour des raisons sanitaires aussi, n'occupez pas, ne vivez pas dans une maison dans laquelle il y a de l'eau stagnante.
On peut savoir pourquoi ? Enfin, on va juste souligner pour les gens.
Pour des raisons sanitaires,
c'est
les réseaux d'eau usée, d'eau potable, etc., qui ne sont pas sécurisés. Pour ces raisons-là, on n'occupe pas une maison dans laquelle il y a de l'eau stagnante.
Et concernant maintenant les démarches administratives, que doit-on engager ?
Alors, première chose, avant même de nettoyer ou de réparer, faites un premier constat des dégâts en notant tout ce qui a été détruit ou endommagé. Et si possible, faites des photos.
Ah, très bien.
Ouais.
Ah, on n'a pas souvent le réflexe de le faire.
Faites des photos pour, dans un deuxième temps, pouvoir les transmettre à l'assurance. C'est important.
Très bien.
Et puis ensuite, vous déclarez votre sinistre. Donc, vous le déclarez en envoyant votre déclaration par courrier avec accusé de réception.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire maintenant une conclusion par rapport à tout ça ?
Alors, pour conclure, je dirais qu'il est très important de bien se préparer avant, de bien connaître son environnement, ça va permettre de ne pas être pris au dépourvu. La deuxième chose, c'est pendant l'inondation, à tout prix, respecter les consignes émises par les autorités. Et puis, de manière générale, faire preuve de bon sens face à la situation et surtout de prudence.
Alors, vous dites de bon sens, certaines personnes pendant leur voiture pour aller aider un parent qui est de l'autre côté du pont. Alors, sens, ça peut être du bon sens. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux de ces différentes informations. Mais là, vous nous dites quoi ? Et comme vous l'avez souligné, le plus important, c'est faire attention à l'autre, la sécurité de la personne, c'est ça ? Et laisser les biens, même si ça nous a coûté très cher ?
Exactement.
Ouais.
Mais se mettre d'abord soi-même en sécurité. Attention, souvent le réflexe est d'aller chercher les enfants à l'école. Bien penser que l'école a mis en place les moyens pour s'occuper des enfants dans ce cas de figure.
Ouais.
Donc attention au réflexe qui est de dire je veux à tout prix aller chercher les enfants à l'école et auquel cas je me mets en danger par exemple en traversant une zone inondée.
Tout à fait.
Donc ça c'est un comportement à ne pas avoir. Penser à sa propre sécurité et penser aussi que les enfants sont pris en charge dans des conditions de sécurité.
Donc, on va le souligner parce que souvent, ça peut être ça. Alors, quand on sait qu'il y a un problème au niveau de l'inondation, on sait que nous sommes à une longue distance, les enfants sont, on va dire, du côté de Bastia et nous sommes à Pointe-à-Pitre, vous dites de rester en sécurité tout en sachant que l'école, il y a une équipe qui saura s'occuper des enfants et rester dans la sérénité, même si ça peut être difficile pour nous de le faire. C'est ça ?
Voilà, tout à fait. Il faut savoir que quand des vigilances, des bulletins de vigilance sont émis, à la préfecture, donc se déclenche tout un processus de gestion de crise avec des consignes particulières qui sont adressées au rectorat et relayées dans les directions des écoles pour prendre en charge les enfants. Et souvent, les consignes associées aux vigilances des bulletins météorologiques, c'est « ne vous déplacez pas ». Donc à ce moment-là, il faut respecter cette consigne. Et en parallèle, sachez que le maître ou la maîtresse a reçu les consignes et a les moyens pour s'occuper des enfants, pour les prendre en charge.
Alors là, vous n'êtes pas Madame Météo, mais ces temps-ci, on prévoit certaines choses. Donc là, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore mis en place leur kit de sécurité, pensez justement à des endroits où mettre les différents papiers. Ça peut être intéressant de souligner ça, non ? Parce que souvent, on n'anticipe pas énormément.
Oui, alors je dirais que, encore une fois, les inondations, elles peuvent survenir toute l'année. Il y a notamment donc c'est lié à des phénomènes de précipitations qui peuvent être difficiles à anticiper au niveau météorologique, notamment parce qu'ils sont liés à des petites concentrations très localisées d'amas pluvieux. Donc, quelquefois, ça peut être très difficile à prévoir. Et surtout, c'est parfois aussi hors saison cyclonique. Donc, il faut ne pas sous-estimer le danger lié aux inondations toute l'année. Autant il y a une saison où on sait qu'on peut avoir des cyclones, autant les inondations comme les séismes, la saison dure toute l'année.
Tout à fait, d'accord. En tout cas, vous l'avez déjà dit, c'est le moment de prévoir. Hein. Faire une petite réunion de famille, savoir en cas de problème, vers quel morne on sera à place dirigée. Hein, chercher les étagères ou placer les papiers les plus importants, parce que souvent on a du mal à anticiper, et c'est quand les choses arrivent qu'on se dit « Ah, j'aurais dû y penser, mais il est trop tard ». Voilà. Oui, allez-y.
Non, mais je pense qu'il faut, de la même manière qu'on se sensibilise au risque lié au tremblement de terre, il faut profiter, se dire oui, je peux être confronté à un tremblement de terre, je peux aussi être confronté à un cyclone, à une inondation. Donc, tous les gestes qu'on fait, penser multi-risque, puisqu'après tout, la Guadeloupe est exposée à de nombreux risques naturels. Qui peuvent nous impacter dans notre quotidien.
Tout à fait. Alors toutes ces différentes informations, est-ce qu'on peut les télécharger sur le site de la DEAL ou pas ?
Oui, donc toutes les recommandations sur mon logement est en zone inondable, que faire ? Ça a fait l'objet d'une petite plaquette d'informations et réalisée par les services de l'État en collaboration notamment avec Météo France. Mon logement est en zone inondable, que faire ? Trois temps avant, pendant et après l'inondation. Donc ce petit document, vous pouvez le retrouver en téléchargement sur le site internet de la DEAL au www.guadeloupe.développement-durable.gouv.fr. Et puis, pour plus d'informations, vous pouvez aussi contacter la DEAL au standard, le 0590-99-46-46.
D'accord. Dites-nous, pour toutes ces personnes qui sont à l'écoute aujourd'hui et qui se disent, nous, on aimerait bien continuer cette conversation, est-ce que la DEAL se déplace au niveau de certaines structures et donne ces différentes informations ou pas ?
C'est possible, tout à fait. On peut aussi travailler avec des associations, leur mettre à disposition ces documents d'information, discuter un petit peu avec elles des principes généraux. Et ensuite, ces associations se font le relais dans les quartiers, dans les écoles, du message de prévention.
Il est très bien fait d'ailleurs, différentes couleurs. Et puis, c'est clair avant, pendant et après. Et les différentes informations sont là, très court, très précis. C'est vraiment intéressant. Donc, si on désire, on n'a pas Internet, je vais exagérer. On peut se rapprocher de vous carrément pour en avoir ou pas ?
Tout à
fait. Petite plaquette.
Vous contactez la DEAL au 0590-99-46-46 et puis on vous orientera vers le bon service pour vous mettre à disposition ce document.
Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour, Madame Comte ?
Je pense que oui.
Voilà. Bon, on va de suite vous remercier en rappelant simplement votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de la DEAL.
Donc le 0590-99-46-46.
Aujourd'hui avec vous, nous parlions de cette thématique « Mon logement est en zone inondable, que faire ?» Nous l'avons vu, trois volets, avant, pendant et après. Merci à vous, Madame Comte. On aura la joie de vous revoir l'année prochaine, c'est ça ?
Avec plaisir.
Merci à tous et merci à vous, chers auditeurs. Belle fin de journée à vous. Au revoir.
Merci à vous.